Chapitre 3. Hors la chambre. Émilie trouva Mirabel dans la salle d'attente. Il était tout naturel qu'il se montrât surpris d'une apparition si soudaine. Mais ce que sa figure exprima, ce fut plus que de l'étonnement, ce fut, dans l'espace d'une seconde, une véritable épouvante. N'avez-vous pas reçu mon message? J'avais dit au domestique que je vous priais instamment d'attendre mon retour, et dans la crainte d'un oubli, d'un malentendu quelconque, je lui avais donné un billet pour ma sœur. Le domestique n'a rien oublié, repartit Émilie, mais mon extrême impatience ne m'a pas permis de voir Miss Rizelvin. Avez-vous cru réellement que je pourrais endurer le supplice de l'attente jusqu'à votre retour? Croyez-vous que moi, qui connais Miss Rizrook, je serai de trop dans votre entrevue avec elle? On ne vous permettra pas de la voir. Pourquoi non? Vous, vous n'attendez que pour cela. J'attends la venue du recteur de Belford. Il est à Berwick et on l'a envoyé chercher sur la pressante requête de Miss Rizrook. Est-elle donc mourante? Elle a peur du moins de mourir. Mais jusqu'à quel point cette frayeur est fondée, c'est ce que j'ignore. La chute a causé des lésions internes. J'espère obtenir l'accès de sa chambre lorsque le recteur sera ici. Comme clergyman, je puis fort bien le prier d'exercer son influence pour m'obtenir accès près d'elle. Je suis heureuse de vous voir si empressée. Je suis toujours empressée à vous servir. Ne me croyez pas ingrate, répliqua doucement Émilie. Mais, comme je ne suis pas absolument une étrangère pour Miss Rizrook, ne pensez-vous pas qu'en lui faisant passer ma carte, elle me recevrait sans qu'il fût besoin de l'intervention du recteur? Elle s'interrompit. Mirabel venait de faire un brusque mouvement qui le plaçait entre elle et la porte de sortie. « Je dois réellement vous conjurer de renoncer à un tel projet, dit-il. Qui sait quel horrible spectacle pourra s'offrir à vos yeux et à quelle souffrance cette malheureuse peut être en proie ?» Quelque chose d'indéfinissable dans sa voix et ses manières suggérait à Émilie l'idée qu'il n'avouait pas son vrai motif. Si vous avez une raison sérieuse de vous opposer à ce que je vois Miss Rizrook, je vous en prie, dites-la franchement. Nous avons l'un dans l'autre, je pense, une confiance entière. Moi, du moins, j'ai fait de mon mieux pour en donner l'exemple. Mirabel, hésitant, parut fort en peine de trouver une réponse. En ce moment, le chef de gare entra dans la salle. Émilie, se tournant vers lui, le pria de lui indiquer la maison où l'on avait transporté Miss Rizrook. Il la conduisit jusqu'à l'extrémité du quai et, du doigt, lui désigna la porte. Aussitôt, Émilie et Miss Rizelmoser sortirent de la gare, suivies de Mirabel, obstinées à protester, à soulever en vain objection sur objection. La porte de la maison leur fut ouverte par un vieil homme qui jeta sur Mirabel un coup d'œil de reproche. « On vous a déjà dit et répété, s'écria-t-il, qu'aucun étranger ne serait admis près de ma femme. » Apprenant par ses paroles qu'elle avait affaire à M. Rook, Émilie se nomma à lui. « Peut-être, dit-elle, avez-vous entendu Miss Rizrook parler de moi ?»« Très souvent. » »« Que dit le docteur ?»« Il pense qu'elle en reviendra, mais elle ne veut pas le croire. » « Voudriez-vous la prévenir que je désirerais vivement la voir, si c'est possible ?» Monsieur Rook regarda Miss Rizelmoser. « Est-ce que vous avez envie de monter toutes les deux » fit-il. « Cette personne est ma vieille amie et suivante, » répliqua Émilie. « Elle m'attendra ici. »« Elle peut attendre dans le parloir. Les maîtres de la maison sont de bonnes gens que je connais bien. » Il indiqua du geste la porte du parloir, puis se dirigea vers le premier étage. Émilie le suivit. Mirabel marchait derrière eux. M. Roux ouvrait une porte placée au fond du palier lorsque, se retournant vers Émilie, il aperçut Mirabel debout derrière la jeune fille. Sans se donner la peine de prononcer un mot, le vieillard montra du doigt le bas de l'escalier. Il ne fallait pas songer à le fléchir. Mirabel en appela à Émilie. « Elle recevra ma visite si vous le lui demandez. Je vais rester ici. » Le son de sa voix eut un étrange écho. Un long cri de terreur venait de s'échapper de la chambre entr'ouverte. M. Rook s'y précipita, non sans fermer la porte derrière lui. Moins d'une minute après, il la rouvrait, le doute et l'horreur peints sur son visage. Il alla droit à Mirabel et sembla le dévisager avec une attention profonde. Il se recula avec un soupir de soulagement. « Elle se trompe, murmura-t-il, ce n'est pas vous qui êtes l'homme. »« De quel homme voulez-vous parler ? » dit vivement Émilie, frappée de ses manières étranges. M. Rourke ne parut pas l'avoir entendu. D'un doigt impérieux, il désignait de nouveau à Mirabel le bas de l'escalier. Les yeux sans regard, marchant comme un somnambule en proie à son rêve, Mirabel lui obéit. M. Rourke revint alors à Émilie. « Est-ce que vous vous effrayez facilement ? » demanda-t-il. « Je ne vous comprends pas, » dit Émilie. « Qu'est-ce qui peut m'effrayer ? Et pourquoi parlez-vous d'une façon si bizarre à M. Mirabel ?» M. Rourke regardait la porte de la chambre à coucher. « Peut-être qu'on vous expliquera ça. Si j'étais le maître, vous ne la verriez pas. Mais il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Seulement, miss, prenez-y garde. Il ne faudra pas prendre pour argent comptant toutes les divagations de ma femme. » Il ouvrit la porte et, baissant la voix, « À mon avis, sa cervelle a déménagé. » Déjà, Émilie avait franchi le seuil et M. Rourke tirait doucement le battant sur lui.